Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, votre cœur se renouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pie X,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant que j'oublie, je vais annuler le cours de mercredi prochain, hein, puisque nous avons l'ouverture de la chapelle le 15 août, c'est un jeudi. Et mercredi, je vais être trop occupé pour finir les derniers préparatifs et je risque de pas avoir le temps de préparer mon cours suffisamment correctement. Donc, je préfère l'annuler. Donc, prochain cours, ce sera dans 15 jours. Je m'excuse pour ceux qui l'attendaient, mais je peux pas tout faire. Merci aussi à tous ceux qui continuent de nous aider. On a encore reçu quelques dons qui vont nous aider à payer les dernières factures. Hein. Nous avons une grosse facture encore à payer pour le parking. Le parking va nous coûter beaucoup plus cher que ce qu'on pensait parce qu'il faut beaucoup plus de cailloux que ce qu'on croyait. Donc il faut 400, 300, 300 tonnes de cailloux, quelque chose comme ça. Donc merci à tous ceux qui continuent de nous aider pour payer tout ça. Alors, nous en sommes toujours aux explications, avec les explications sur la grande encyclique de Saint Pie X, Pascendi Dominici Gregis, du mois de septembre 1907. Donc on a fini la partie compliquée de l'encyclique, oui, c'était une partie assez difficile. Donc, Saint Pie X analyse, je vous rappelle, les trois faisceaux d'erreurs. Si vous voulez, ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le modernisme est un cerveau complètement pagaille, en quelque sorte. Mais il y a quand même des faisceaux d'erreurs. On a l'impression que tout est en pagaille, mais c'est organisé. C'est organisé d'une façon démoniaque, il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Et donc, il y a trois grands groupes d'erreurs qu'on trouve chez tous les modernistes. L'agnosticisme, l'évolutionnisme, l'immanentisme. Agnosticisme, incapacité de connaître le vrai. Donc ça ne sert même pas la peine de chercher à le connaître, à savoir où il est. Immanentisme, tout est fait de l'intérieur. On ne peut pas trouver le vrai parce que chacun fait son propre vrai. Puisque chacun peut faire son propre vrai, conséquence, ben le vrai n'existe pas, tout simplement. Enfin, évolutionnisme, tout change. Donc ça ne vaut même pas le coup de chercher le vrai aujourd'hui, parce que de toute façon, le vrai d'aujourd'hui n'était pas le vrai d'hier, et n'est pas le vrai de demain. Voilà. Donc nous en sommes maintenant aux conséquences pratiques. Saint Pie X, après avoir expliqué donc ces trois faisceaux d'erreur, dit ceci: nous laisserons à chacun le soin d'en faire l'application, ce qui va suivre, elle est aisée. Donc il va commencer maintenant à expliquer comment, avec ces trois faisceaux d'erreurs, le cerveau du moderniste est totalement sans dessus dessous. Bon. Et là, il y a une phrase clé. Alors, dans l'édition que je suis, on est au numéro 25, donc je ne sais pas si ce sont les mêmes numéros pour toutes les éditions. On est à peu près à la fin du premier tiers de l'encyclique. Il y a une phrase clé. Donc, Saint Thomas d'Aquin va maintenant analyser comment le modernisme va détruire le dogme, mais aussi le culte, les livres saints, l'inspiration divine. Bon. Alors, on a déjà vu le dogme ensemble. Maintenant, on est au niveau du culte. Donc, le culte, c'est en quelque sorte l'application du dogme. Le dogme est appliqué par le culte. La Sainte Messe, c'est le culte divin par excellence. Mais la Sainte Messe, c'est aussi toute la doctrine de l'Église. Donc on ne peut pas séparer la messe comme culte de la messe comme dogme. La messe est aussi un dogme de foi. La Sainte Eucharistie est un dogme de foi fondamental, un des dogmes de foi fondamentaux de l'Église catholique. Voilà ce que dit Saint Pie X. Du culte, il y aurait peu à dire, si ce n'était que sous ce mot sont compris les sacrements, et sur les sacrements, les modernistes grèvent de fort graves erreurs. Donc on va voir maintenant comment le modernisme va travailler pour détruire les sacrements. Le culte naît d'une double nécessité, d'un double besoin. Car, comme on l'a remarqué, la nécessité, le besoin, tel est dans leur système la grande et universelle explication. Donc pour eux, c'est ça qu'il faut comprendre, pour un moderniste, le dogme, le culte, l'écriture sainte, l'inspiration, ne vient pas de Dieu, ça vient d'un besoin. Je sens que j'ai besoin de telle chose pour pouvoir être à l'aise, donc cette chose doit exister. Puisqu'elle n'existe pas, je vais la fabriquer pour pouvoir combler mon besoin. Donc. Et inutile de vous dire qu'avec des principes pareils, c'est toute la foi catholique sur les sacrements qui va disparaître. Bon. Ainsi, puisque tout est basé sur le besoin, c'est le besoin qui, dans leur système, dit Saint Pie X, est la grande et universelle explication. Le besoin va donc dépendre directement de la cervelle de chaque individu, parce que chacun a des besoins qui sont différents. C'est pas parce que vous avez tel besoin que ça veut dire que le voisin a besoin de la même chose. C'est pas parce que vous aimez les épinards, ça veut dire que le voisin a le même besoin d'épinards que vous. Bon, parce que les choses sont différentes. C'est pas parce que vous aimez le chocolat que le voisin est obligé de l'aimer. Bon, c'est pareil pour tout. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque tout vient du besoin, la conséquence est énorme. La conséquence est que les sacrements ne sont que des symboles. Pour un moderniste, les sacrements ne viennent pas du Christ, les sacrements viennent des hommes. Ce sont les hommes qui ont inventé les sacrements, comme ce sont les hommes qui ont inventé le culte, comme ce sont les hommes qui ont inventé le dogme, comme ce sont les hommes qui ont inventé l'écriture sainte. Tout est une invention de l'homme. Ce sont les premiers apôtres qui, tardivement, à la fin de leur vie, à cause d'un besoin des fidèles d'avoir une explication sur Dieu, ont créé le dogme catholique. Parce que les fidèles avaient besoin de sentir quelque chose, donc on a créé les sacrements. Donc la messe, par exemple, ne vient pas du tout de notre Seigneur Jésus-Christ, pour un moderniste, la messe vient tout simplement du besoin des fidèles. Voilà ce que dit Saint Pie X. Le premier besoin, ici, est de donner à la religion un corps sensible. Donc on travaille avec les sens, rappelez-vous ce que Saint Pie X a déjà expliqué, que le modernisme travaille avec les sentiments. Donc, non pas avec l'intelligence, c'est avec les sentiments. C'est les sentiments qui font tout. Le premier besoin est de donner à la religion un corps sensible. Le second besoin, le propager. À quoi il ne faudrait pas songer sans forme sensible dans les actes sanctifiants que l'on appelle sacrements. Donc les sacrements pour les modernistes sont de purs signes ou symboles qui peuvent être doués d'efficacité. Mais ce sont des symboles. Donc chacun peut voir dans les sacrements le symbole qu'il veut. Parce que vous voyez les conséquences de ce genre de doctrine au niveau des sacrements. Si la messe n'est qu'un symbole, ben la présence réelle n'existe pas. Bon. Si la confession est un symbole, j'accuse mes péchés, mais en fait, mon Dieu pardonne rien du tout, parce que c'est purement symbolique. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement ? Le catéchisme traditionnel dit que le sacrement, c'est un signe visible d'une grâce invisible donnée par Dieu pour notre sanctification. C'est la définition traditionnelle du Concile de Trente. Signe visible d'une grâce invisible donnée par Dieu, instituée par Dieu pour notre sanctification. Pour le moderniste, le sacrement n'est pas le signe d'une grâce réelle, le sacrement n'est qu'un symbole de quelque chose que je ressens. C'est le symbole de quelque chose que je voudrais voir parce que j'en ai besoin pour que mon petit cœur se plaise dans tel ou tel domaine. Vous voyez ? Donc c'est purement subjectiviste. Tout est subjectif chez le moderniste. N'oubliez pas que le modernisme est d'abord un subjectivisme. Chacun fait sa vérité, ce qu'on appelle l'immanenti. Je fais ma vérité à l'intérieur. Donc les sacrements ne viennent pas du Christ. C'est simplement chacun qui fait ses sacrements. Donc les sacrements peuvent être modifiés selon les temps. Donc c'est pas parce que votre voisin sent qu'il a besoin de la confession, parce que lui a envie d'accuser ses péchés à Dieu, parce qu'il se sent mieux en accusant ses péchés, mais vous, à côté, vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir les mêmes sentiments. Vous pouvez avoir un sentiment complètement différent, et pour vous, d'avoir aucun besoin de vous sanctifier par l'accusation de vos péchés à un prêtre ou confessionnal. Bon. C'est pareil pour la messe. La messe, c'est quoi? C'est le renouvellement, c'est le catéchisme traditionnel nous dit, la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Mais pour le moderniste, la messe n'est pas un acte, renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, la messe n'est pas un sacrifice, mais un symbole de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Donc, on utilise la messe que pour faire mémoire, c'est tout. Et qui est-ce qui a dit que la messe n'était pas un sacrifice, mais qu'une chose utilisée pour faire mémoire? C'est Luther, c'est le protestantisme. Pour ça qu'en fait, les modernistes se sentent parfaitement à l'aise dans le milieu protestant. Et que les milieux protestants se sentent parfaitement à l'aise dans les milieux modernistes. D'accord? Donc les sacrements pour les modernistes ne sont que des purs signes ou des symboles, même s'ils peuvent être doués d'efficacité. Vous voyez, c'est encore une fois plein de contradictions. C'est un symbole, mais qui peut être un symbole efficace. Alors c'est un symbole ou non? Si c'est un symbole, par définition, un symbole ne peut pas être doué d'efficacité puisque c'est simplement quelque chose qui représente quelque chose d'autre. Bon. C'est comme la photographie de votre grand-père, la photographie d'un membre de votre famille décédé. C'est un symbole de la personne qui est décédée. Et c'est pas parce que vous avez la photographie de votre grand-père dans votre salle à manger, ça veut dire que votre grand-père est dans la salle à manger. Parce que la photographie, là, effectivement, est un symbole. Bon, mais si je dis que la messe n'est qu'un symbole, donc la présence réelle n'est qu'un symbole. Si la présence réelle n'est qu'un symbole, il est évident que la présence réelle n'est pas justement réelle. La présence réelle n'est que le symbole d'une présence générale de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu étant le Créateur, oui, donc il est présent dans le tabernacle, mais pas plus qu'ailleurs. Vous voyez? Alors, je répète cette phrase. Les sacrements pour les modernistes sont donc des purs signes ou symboles, bien que doués d'efficacité. Ils les comparent à certaines paroles dont on dit vulgairement qu'elles ont fait la fortune parce qu'elles ont la vertu de faire rayonner des idées fortes et pénétrantes qui impressionnent et qui remuent. Donc encore une fois, le dogme pour eux, le catéchisme, a aucune importance pour un moderniste. Pourquoi? Parce que le catéchisme c'est quelque chose de fixe et c'est ce dont ils ne veulent pas. Donc un moderniste ne peut pas supporter l'idée même d'un catéchisme. Un catéchisme, pour eux, c'est une invention de l'Église. Le catéchisme, c'est une invention des premiers apôtres. Ça ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun se fait son catéchisme. Si j'ai un catéchisme qui m'impose un certain nombre d'idées à croire, de dogmes de foi à croire et à défendre, par exemple la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, à ce moment-là, est évident que je suis dans l'obligation de croire. Pour un moderniste, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ n'est qu'un pur symbole. Et vous voulez croire que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, très bien. Mais vous voulez croire que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est la même chose. Chacun est libre. D'accord? Comme ces paroles sont à ces idées, de même, les sacrements aux sentiments religieux. Vous voyez? Donc, le sacrement, c'est simplement un symbole qui nous aide à avoir un sentiment religieux sur le sujet. J'ai besoin, donc pour eux la confession n'a pas été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, mais je me sens mal à cause d'un péché que j'ai commis, alors j'invente la confession, comme ça je vais m'agenouiller auprès d'un prêtre, je fais semblant qu'il représente notre Seigneur Jésus-Christ, et cela va faire jouer un petit peu le sentiment religieux et me faire comprendre que je suis pardonné. Et c'est purement sentimental. Vous voyez ? Et de vous dire qu'il reste plus rien après cela de la foi catholique. Autant dire en vérité, plus clairement, que les sacrements pour les modernistes, dit Saint Pédis, n'ont été institués que pour nourrir la foi. C'est pas quelque chose qui donne la grâce, c'est quelque chose qui nourrit la foi, rien de plus. Autant dire en vérité, plus clairement, que les sacrements n'ont été institués que pour nourrir la foi, une proposition condamnée par le Concile de Trente. Le Concile de Trente, je rappelle, c'est le 16e siècle. Et voilà la proposition. Si quelqu'un dit que les sacrements n'ont été institués que pour nourrir la foi, qu'il soit anathème. Vous voyez? Sacrement de la pénitence, c'est pas seulement pour nourrir notre foi. Sacrement de pénitence était institué par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même pour pardonner les péchés. Donc si je rentre dans le confessionnal avec la contrition, l'accusation et la réparation, mes péchés sont pardonnés. C'est pas un symbole, c'est pas un sentiment d'avoir pardonné mes péchés. Non, c'est une réalité. Pour le modernisme, au contraire, c'est purement sentimental, c'est purement symbolique. Donc la confession n'a pas été inventée par notre Seigneur Jésus-Christ, la confession vient directement des hommes. Ce sont les hommes qui ont inventé tout ça. Alors c'est pareil pour les livres saints. L'Église catholique enseigne que le canon des Écritures, c'est-à-dire la liste des livres de l'Écriture sainte qui sont reconnus comme d'inspiration divine, qui est très ancienne, mais elle a été fixée de façon définitive par le Concile de Trente. Bon. Pour justement éviter ce qu'on appelle les apocryphes. Les apocryphes, ce sont des livres qui peuvent être intéressants sur certaines choses, par exemple sur le plan historique, mais qui ne sont pas dans le canon des Écritures. On n'est pas sûr que ça soit sous inspiration divine, donc on n'est même pas dans le canon des Écritures. Donc, les livres saints, les livres de la Sainte Bible, par exemple les quatre évangiles, ou les 14 épîtres de Saint Paul, eh bien, c'est le canon des Écritures. C'est-à-dire, on est certain que Dieu lui-même a, utilisant un apôtre par exemple, ou un évangéliste, par exemple comme Saint-Luc qui n'est pas un apôtre, a utilisé une personne pour écrire, mais le texte, même s'il a été écrit avec les capacités propres de l'écrivain, le texte vient de Dieu. Donc la foi catholique nous enseigne que les livres saints viennent directement de Dieu et donc ne peuvent comprendre aucune erreur. Bon. Pour un moderniste, le livre saint vient des hommes. Encore une fois, c'est purement symbolique, c'est purement sentimental. Donc ce sont les apôtres qui ont écrit ce texte à la demande des fidèles et chacun y a mis un peu ce qu'il voulait. Donc les apôtres, les modernistes vont aller jusqu'à dire que par exemple la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout de foi, c'est purement symbolique. Et que notre Seigneur Jésus-Christ ne savait même pas lui-même qu'il était Dieu. Mais on en arrive. Et donc ils vont dire... De l'origine, la nature des livres saints, donc deuxième partie, après avoir vu le culte, le dogme, le culte, voyons maintenant les livres saints, d'après le texte de Saint Pédis. À propos des livres saints, nous avons déjà touché quelque chose là-dessus. Ils ne constituent non plus que des simples rejetons de la foi. Si l'on veut les définir exactement, on dira qu'ils sont le recueil des expériences faites dans une religion donnée. Donc c'est la conséquence de... un résumé de ce que pense mon cœur sur le sujet. Donc, je pense que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, c'est mon opinion personnelle, et donc, je vais écrire un évangile qui prouve la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, donc je vais rajouter toute une série de miracles, je vais rajouter toute une série de prophéties de l'Ancien Testament qui ont été remplies par notre Seigneur Jésus-Christ pour prouver sa divinité, mais ça ne vient pas du tout de notre Seigneur Jésus-Christ, ça vient de moi. C'est ma propre volonté, mon propre fond qui définit ce que je veux définir. Donc le catéchisme, les modernistes par définition ont horreur du catéchisme. Ils ne peuvent pas supporter l'idée même d'un catéchisme. D'accord ? Donc, ce n'est que le recueil des expériences faites dans une religion donnée, non point d'expérience à la portée de tous et vulgaire, mais extraordinaire et insigne. Ceci est dit de nos livres saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, aussi bien que des autres. Donc, puisque l'Écriture sainte ne vient pas de Dieu, donc l'Écriture sainte peut avoir des erreurs. Puisque l'Écriture sainte ne vient pas de Dieu, cette Écriture sainte peut changer au fur et à mesure de l'histoire, tout simplement. L'Évangile des premiers siècles ne doit plus correspondre à l'Évangile de 2024, parce qu'en 2024, les choses ont changé. Donc, des choses qui étaient nécessaires pour le sentiment et où le symbole des gens du premier siècle ne sont plus nécessaires aujourd'hui, donc il faut complètement changer les évangiles. Donc l'idée d'un évangile fixe qui ne change plus est inapplicable et incompréhensible pour un moderniste. Vous voyez ? Une remarque qu'ils ajoutent, il faut raviser leur point de vue, c'est que si l'expérience seule roule toujours sur le présent, elle peut puiser néanmoins sa matière et dans le passé et dans l'avenir, attendu que le croyant vit sous la forme du présent et les choses du passé qu'il fait renaître par le souvenir et celles de l'avenir qu'il anticipe par la prévision. De là sont les, parmi les livres saints, les livres historiques et les livres apocalyptiques. Par exemple, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui explique le futur. Qui ne parle pas du passé, mais du futur. Ça, c'est très important de bien comprendre ça. Donc, le futur n'est pas quelque chose de fixe pour un moderniste, c'est quelque chose qui doit s'adapter en fonction du futur. Comme le futur, on ne le connaît pas, donc chacun peut adapter un texte actuel pour le futur de demain, puisque le futur de demain peut changer. Vous voyez ? Alors là, une phrase clé que Saint Pilice exprime, c'est Dieu qui parle dans ses livres par l'organe du croyant, mais selon la théologie moderniste, par voie d'immanence et de permanence vitale. Ça veut dire quoi ? Il dit, c'est bien Dieu qui parle, par l'écriture sainte, par les livres saints, mais par voie d'immanence et de permanence vitale. Ça veut dire, Dieu me donne quelque chose pour nourrir mon intelligence, pour nourrir mon cœur, pour nourrir mes sentiments, et moi, j'en fais ce que je veux. C'est-à-dire, je suis libre d'interpréter comme je veux l'Écriture sainte. On verra dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est un texte extrêmement important qu'on a, c'est pour le 12e dimanche après la Pentecôte. On a l'évangile du bon samaritain. Bon. L'évangile du bon samaritain est un évangile clé pour expliquer justement ce qu'on appelle le sens caché de l'Écriture sainte. Bon. Le sens caché de l'Écriture sainte est détesté par tous les modernistes. Les modernistes ne peuvent pas supporter l'idée même d'un sens caché de l'Écriture sainte. Donc, pour eux, d'avoir l'histoire de l'Église, d'avoir le dogme catholique, d'avoir le magistère catholique qui donne une interprétation fixe pour une page de l'Évangile, c'est incompréhensible. Ils refusent ça catégoriquement. Parce que chacun a son interprétation. Et donc, l'interprétation va aller avec le libre arbitre, le libre examen. Donc, pour un moderniste, le libre examen, c'est tout. Chacun interprète comme il veut l'Écriture sainte. Okay? Donc, il n'y a plus de vérité, puisque chacun peut l'interpréter de toute façon comme il le veut. Au contraire, pour un catholique, on verra ça dimanche, au contraire, pour un catholique, l'Écriture sainte ne doit être interprétée que comme ça a toujours été interprété dans l'Église. Tiens, passez-moi le livre plus, s'il vous plaît. Je vais donner un... Non, celui-là, voilà, merci. Merci, merci beaucoup. Je vais vous donner le passage du dogme de foi. Donc, c'est la profession de foi. Ça, c'est la profession de foi, justement, du Concile de Trente et de Vatican I. Donc, c'est la profession de foi qu'on fait, celle que j'utilise à la fin de toutes les retraites. On l'utilise aussi pour les conversions d'adultes. Un protestant, on lui demande cette profession de foi. On l'utilise aussi pour la veille du sous-diaconat, du diaconat, du sacerdoce, de l'épiscopat. Voilà ce que résume, c'est la profession de foi du Concile de Trente et du Concile Vatican I qui résume toute la foi catholique. Mais voilà ce qu'elle dit sur justement l'inhérence biblique, c'est-à-dire le fait que l'Écriture sainte ne peut pas contenir d'erreur. J'admets de même la Sainte Écriture selon le sens que reconnaît la Sainte Église notre Mère, à qui il appartient de juger du vrai sens et de l'interprétation des Saintes Écritures. Et jamais je ne la recevrai et je ne l'interpréterai que dans le sens unanime des Pères. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais interpréter comme je veux l'Écriture sainte, c'est l'Église catholique qui me donne la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Et ceux qui ont cette clé d'interprétation sont les pères de l'Église. Les pères de l'Église grecque, l'Église latine, donc ça aussi, il faut bien savoir, celui qui est le docteur par excellence de l'interprétation de l'Écriture sainte, c'est Saint Jérôme. Donc il y a quatre pères latins. Il y a Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Jérôme et Saint Grégoire le Grand. Il y a quatre pères de l'Église grecque. Il y a Saint Athanase, Saint Jean Chrysostome, Saint Basile et Saint Grégoire de Nazianze. Ce qu'on appelle les huit pères de l'Église. Et c'est eux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Bon, elle peut être aussi donnée par d'autres personnes, par d'autres pères de l'Église qui peuvent être très peu connus. Mais c'est à tel point, c'est tellement important que quand tous les pères de l'Église, tous les huit pères que je viens de vous citer, ces huit pères de l'Église, tous interprètent tel passage de l'Écriture sainte de la même façon, l'Église protège cette interprétation par le privilège de l'infaillibilité. Ça devient infaillible. Ça devient infaillible parce qu'il y a des passages qui peuvent être interprétés de façon différente par certains pères. Vous savez, donc, quand il n'y a pas une uniformité d'interprétation de tel passage d'Écriture sainte, C'est très intéressant en tant que tel d'étudier ses pères, mais en même temps, ce n'est pas forcément infaillible. L'explication n'est pas forcément infaillible. Sauf si tous les pères, les quatre pères de l'Église grecque, les quatre pères de l'Église latine interprètent de la même façon, à ce moment-là, c'est protégé par l'infaillibilité. Vous voyez ?
Derrière, vous avez saint Thomas d'Aquin aussi.
Alors, saint Thomas d'Aquin n'est pas un père de l'Église, attention. Saint Thomas d'Aquin, c'est un docteur de l'Église. D'ailleurs, on le voit très bien dans sa grande œuvre qui s'appelle la chaîne d'or, où il va justement aller chercher les pères de l'Église pour interpréter chaque verset des quatre évangiles. Il a tout fait de mémoire, mais il n'y a pas un mot de saint Thomas d'Aquin. Donc la chaîne d'or, en fait, c'est saint Thomas qui a mis en ordre tous ces textes. Il est allé pêcher dans tous les pères de l'Église, tout ce qu'on dit, chacun des pères de l'Église, sur chaque verset des quatre évangiles, de façon extraordinaire. Mais ce ne sont pas les interprétations personnelles de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est aussi un exégète. Il a d'autres passages. Par exemple, sur les épîtres de saint Paul, il n'a pas expliqué toutes les épîtres de saint Paul, mais il en a expliqué certaines. Il peut donner son interprétation personnelle sur tel passage de saint Paul, il en a parfaitement le droit. Mais, attention, on voit très bien dans la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin qu'il se contente de citer les pères. Parce que pour lui, ça suffit. Oui, ça suffit. C'est très, très important d'avoir ça. C'est pour ça que je conseille beaucoup à tous ceux qui, je vous l'ai déjà dit, je crois, tous ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, parce que l'inspiration des livres saints, c'est comme quelque chose de fondamental, parce que s'il y a des erreurs dans l'écriture sainte, ben ça veut dire qu'on n'a plus de fondation pour l'Église catholique. Étudier, aller écouter le cycle de conférences que j'ai placé sur Internet, justement, sur dame-marie.net, j'ai mis toute une série de cours sur l'exégèse des évangiles à partir justement de saint Thomas d'Aquin, entre autres. Donc, vous pouvez étudier tout ça. Je ne sais plus combien il y a de cours, mais c'est un gros cours. Hein. Il y a 200, 300 cours sur le sujet. Donc, c'est Dieu qui parle dans ses livres, mais pour le croyant, comme dit saint Pédis, par voie d'immanence. Pour un catholique, c'est Dieu qui parle par le livre saint. Donc, le livre saint est d'origine divine. Donc, le texte de la Bible, c'est pour ça qu'on dit que l'Église catholique a toujours enseigné que le plus beau livre jamais écrit par les hommes, c'était non pas l'Évangile, qui a été écrit par Dieu, non pas par les hommes, qui n'est pas un livre humain, mais un livre divin. Le plus beau livre humain, c'est l'Imitation du Christ de Thomas à Kempis. Bon. Mais, les livres saints, c'est-à-dire la Sainte Bible, est considéré non pas comme un livre humain, mais par un livre divin. Pourquoi ? Parce que c'est décrit par des hommes. Un exégète qui connaît bien son travail peut déterminer si tel texte a bien été écrit par Isaïe ou par Moïse. C'est pas pareil. Pourquoi on va retrouver le même style d'écriture dans tous les textes écrits par Moïse ? On va trouver le même style d'écriture dans tous les textes écrits par Isaïe ou par Salomon. D'accord ? Mais, même si le style de tel texte est différent. L'évangile de saint Jean n'a pas le même style d'écriture que l'évangile de saint Matthieu, par exemple. Vous voyez ? Mais dans les deux cas, il y a une protection du Saint-Esprit, parce que l'Église catholique enseigne que justement ces livres saints sont protégés par l'inhérence biblique. L'infaillibilité, il y a une infaillibilité qui vient de Dieu, donc il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'écriture sainte, ce n'est pas possible. D'accord ? Alors, cette phrase est importante, un peu compliquée à comprendre. Donc, pour le moderniste, l'interprétation de l'Écriture sainte se fait par voie d'immanence. Chacun interprète comme il veut. Je prends un texte de l'Église, j'interprète comme je veux. Et c'est pour ça qu'on voit, ça par exemple chez les protestants. Chez les protestants, il n'y a pas d'inhérence biblique. Chacun interprète l'Écriture sainte comme il veut. Donc, chacun peut interpréter l'Écriture sainte comme il veut. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a autant d'interprétations que de protestants. Et qu'il y a autant d'églises protestantes que de protestants. C'est un peu vrai. Pourquoi ? Parce que chacun peut avoir l'interprétation qu'il veut. Dans l'église catholique, cette interprétation personnelle n'existe pas. On suit ce que l'église catholique a toujours enseigné. Donc, Saint Jérôme, étant le grand exégète par excellence, certainement celui qui a le plus étudié toutes ces choses-là, c'est pour ça que le pape Saint Damase, au IVe siècle, a demandé à Saint Jérôme de faire la traduction officielle à partir des textes anciens de l'Écriture sainte pour avoir une traduction officielle en latin, puisque le latin c'était la langue de l'Église occidentale au moins. Donc, il voulait donc une traduction officielle. Il est allé chercher, confier ce travail à Saint-Jérôme, parce que Saint-Jérôme connaissait pratiquement toutes les langues anciennes. C'était celle qui pouvait faire ce travail. D'accord ? Alors, demande-t-on, dit Saint-Pédis, je reprends le texte de Saint-Pédis, demande-t-on ce qu'il en est de l'inspiration ? L'inspiration, répond-il, ne diffère pas, si ce n'est par l'intensité de ce besoin qu'éprouve tout croyant de communiquer sa foi par l'écrit ou par la parole. Vous voyez ce que vont dire les modernistes ? On retrouve le même point. Ça correspond à un besoin. Donc, j'interprète tel passage de l'Écriture sainte à ma façon, parce que c'est mon besoin qui me fait donner telle interprétation. J'ai envie de considérer que la Sainte Eucharistie contient véritablement la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc, ce besoin fait que je crois que notre Seigneur Jésus-Christ est présent à la Sainte Eucharistie. Mais si j'éprouve pas ce besoin, à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ n'existe pas, c'est un pur symbole. D'accord ? Donc, on trouve quelque chose de semblable dans l'inspiration poétique. On se souvient du mot fameux, « Un Dieu est en nous, de lui qui nous agite vient cette flamme. » C'est ainsi que Dieu, dit Saint Pédis, dans leur doctrine, est le principe de l'inspiration des saints livres. Chacun fait son interprétation personnelle. Et quand j'étais au séminaire, j'ai entendu Monseigneur Lefebvre justement insister énormément là-dessus. Il faut bien nous dire, attention, il n'y a pas de place pour les opinions personnelles dans la formation séminaire. Le prêtre n'a pas d'interprétation personnelle sur des choses qui sont de foi. Le prêtre n'a pas d'interprétation personnelle sur des choses qui ont toujours été enseignées par l'Église, sur le magistère de l'Église, sur le culte divin, sur l'Écriture sainte, etc. Pourquoi ? Parce que on est obligé de croire ce que l'Église catholique a toujours cru, et d'interpréter un tel texte difficile de l'Écriture sainte tel que l'Église catholique l'a interprété pendant des siècles et des siècles. Cette inspiration, je vous lis le texte ici de Saint-Pédis, en insistant sur certaines choses qui sont plus importantes. Cette inspiration, ajoutent les modernistes, rien dans ces mêmes livres qui lui échappe. En quoi vous les croyez plus orthodoxes que certains autres de ce temps, qui la rétrécissent quelque peu, en lui dérobant par exemple ce qu'ils appellent les citations tacites ? Jonglerie, dit Saint-Pédis, jonglerie de mots et apparence pure. Si on commence par déclarer, selon le principe de l'agnosticisme, que la Bible est un ouvrage humain, écrit par des hommes et pour des hommes, sauf à les dire théologiquement divin par immanence, le moyen de rétrécir l'inspiration, universelle l'inspiration, oui au sens moderniste, nul au sens catholique. C'est-à-dire que chacun fait son interprétation de l'Écriture sainte. Donc, eh bien, chacun peut se prendre pour un pasteur protestant et ouvrir son propre église. C'est pour ça qu'il y a tellement de groupes protestants, parce que chacun fait son interprétation personnelle. D'accord ? Donc, l'inspiration est fixe, donnée par l'Église. Surtout, encore une fois, chez Saint-Jérôme. Alors, il est évident qu'il faut faire très attention, parce que, par exemple, il y a des passages qu'on a le droit d'interpréter de façon symbolique. Par exemple, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, c'est l'évangile de dimanche prochain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tombe au milieu de brigands. Il y a un sens caché derrière. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, on expliquera demain, cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est Adam. Adam qui perd le ciel. Jérusalem, à ce moment-là, représente le ciel, le sens analogique. Et il descend à Jéricho, c'est qu'il perd une chose fixe pour aller sur quelque chose de complètement changeant. Il perd Dieu pour trouver l'homme. D'accord ? Alors, il expliquera un petit peu tout ça dimanche, parce que c'est le thème du sermon de dimanche. Je n'aurai pas le temps de tout expliquer, je ne vais pas prêcher trop longtemps. Alors, si l'on commence par déclarer sur les principes de l'agnosticisme que la Bible est un ouvrage humain, écrit par des apparents, par des hommes et pour des hommes, sauf à les dire théologiquement, divin, par immanence, le moyen de rétrécir l'inspiration, universelle l'inspiration, oui au sens modernisme, non au sens catholique. Donc, par immanence, je vais décider ce qui me plaît dans l'Écriture sainte. Par immanence, je vais interpréter l'Écriture sainte telle que je le conçois, telle que je le veux. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'Église. Vous voyez, saint Thomas va reprendre un petit peu les différents domaines dans lesquels le modernisme peut s'exercer. Nous voici ainsi à l'Église où leurs fantaisies vont nous offrir plus ample matière. Avoir une phrase clé. L'Église est née, non pas notre Seigneur Jésus-Christ, nous, catholiques, qu'est-ce que nous pensons ? Nous pensons que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a fondé l'Église catholique. L'Église catholique était fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit un moderniste ? Le moderniste dit, notre Seigneur n'a rien fondé du tout. C'est nous, le moderniste dit, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fondé l'Église. C'est chacun d'entre nous qui fonde son Église. C'est chacun d'entre nous qui fonde l'Église parce que l'Église est née d'un double besoin, du besoin qu'éprouve tout fidèle et du besoin de s'organiser en société. Donc c'est l'homme qui s'organise, l'homme qui décide qu'il a besoin de Dieu. Et donc Dieu va lui parler par l'Écriture Sainte. Et donc l'homme a fabriqué sur l'Écriture Sainte. J'oublie le texte. L'Église est née d'un double besoin. Rappelez-vous ce qu'on a déjà expliqué, c'est du pur sentimentalisme. C'est plus Dieu qui institue l'Église comme un moyen de salut pour nous permettre de sauver notre âme. L'Église, au contraire, naît simplement d'un besoin. C'est des sentiments qui travaillent et qui vont permettre à ce besoin de s'exprimer. Donc, je répète, l'Église est née d'un double besoin, du besoin qu'éprouve tout fidèle, surtout s'il en a eu quelques expériences originales, de communiquer sa foi. Donc, j'interprète l'Écriture Sainte comme je le veux, pour pouvoir communiquer ma foi. Deuxième besoin, quand la foi est devenue commune, comme on l'a dit collective, du besoin de s'organiser en société pour conserver, accroître, propager le trésor commun. Donc l'Église a écrit elle-même, les hommes d'Église ont écrit par eux-mêmes les évangiles, et chaque évangéliste a raconté ce qu'il voulait sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas forcément vrai. C'est chaque évangéliste qui l'interprète comme il le veut. Oui. Et donc, prenez même la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le moderniste n'admet pas la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, très bien, elle n'a pas existé, c'est pas grave. Puisque la résurrection représente simplement un symbole pour eux. La résurrection du Vendredi Saint n'est qu'un symbole. Le symbole de quoi? Le symbole de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ par sa grâce dans nos âmes après un péché. D'accord? Vous voyez un petit peu les conséquences. Bon, donc les fruits de la conscience collective, autrement dit la collection des consciences individuelles, conscience qui en vertu de la permanence vitale devient un premier croyant pour les catholiques de Jésus-Christ. Donc chacun interprète l'Église comme il veut. L'Église ne vient pas de Christ, ne vient pas de Dieu, l'Église vient des hommes. Donc l'Église est quelque chose d'humain. Si l'Église est quelque chose d'humain, l'Église est quelque chose d'humain, permet de changer ce qu'on veut dans l'Église. Donc, le catéchisme a correspondu à une certaine époque, mais aujourd'hui, en 2024, l'époque a changé. Donc, les choses qui étaient vérité et dogme de foi il y a, par exemple, 50 ans, ou 100 ans, ou 200 ans, ne sont plus vérité et dogme de foi aujourd'hui, parce que les choses ont changé. D'accord ? Donc, l'Église est donc le fruit des consciences individuelles. C'est-à-dire, c'est l'homme qui décide de créer une église parce qu'il a besoin de se sentir une autorité au-dessus de lui. Donc il va créer le pape. Le pape pour eux, par modernisme, n'est pas créé par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué le premier pape. C'est nous qui volontairement nous donnons une autorité. Et donc j'en fais ce que je veux. D'accord ? Vous voyez, encore une fois, l'Église est le fruit d'un besoin. Bon. Du besoin de m'organiser en société, du besoin de communiquer ma foi. Donc parce que j'ai besoin de croire, eh bien je vais inventer le catéchisme. Il va me donner une liste des dogmes de la foi catholique. Parce que j'ai besoin de croire. Et si demain j'ai plus besoin de croire, à ce moment-là j'envoie cette foi catholique à la poubelle parce que j'ai plus besoin de croire. Donc au Moyen-Âge, les gens étaient un peu bêtes, comme disent les modernistes, et donc au Moyen-Âge, les gens avaient besoin d'avoir un catéchisme très structuré. Mais en 2024, vous comprenez, on est 10 fois plus intelligent qu'eux. Et donc maintenant, on n'a plus besoin de ça. Et chacun fait sa propre vérité. Et quand on étudie un petit peu ça, ça laisse un peu rêveur. Hein, parce qu'on peut se dire, mais enfin, ils sont complètement fous. Enfin, qu'est-ce qu'ils font, l'autorité de l'Église? C'est que pour eux, l'Église n'existe plus. Chacun fait son Église, donc chacun est l'Église. D'accord ? C'est le protestantisme pur et simple. Or, dit Saint Pélis, attention, toute société a besoin d'une autorité dirigeante qui guide ses membres à la fin commune et qui, en même temps, par une action prudemment conservatrice, sauvegarde ses éléments essentiels, c'est-à-dire dans la société religieuse, le dogme et le culte. De là, dans l'Église catholique, le triple pouvoir disciplinaire, doctrinal, liturgique. Je vous lis le texte, après j'essaie d'expliquer. L'origine de cette autorité se déduit sa nature. Comme de sa nature ensuite ses droits et ses devoirs, au temps passé c'était une erreur commune que l'autorité fût venue à l'église du dehors, savoir de Dieu immédiatement. En ce temps-là, on pouvait à bon droit la regarder comme autocratique. Mais on est bien revenu aujourd'hui, de même que l'église est une émanation vitale de la conscience collective, de même à son tour, l'autorité est un produit vital de l'église. Chacun fait sa vérité, donc chacun fait à sa conception personnelle de l'église, il n'y a plus rien qui reste de l'église. Après avoir détruit le culte, le dogme et l'écriture sainte, le modernisme va aussi déduire la notion d'église. Pour un catholique au contraire, l'église c'est quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, le catéchisme explique bien, hors de l'église catholique, pas de salut.
C'est la vérité.
Bon, l'église c'est l'association de la communauté, si vous voulez, de gens qui remplissent quatre conditions. Rappelez-vous les quatre conditions d'appartenance à l'église catholique. D'abord le baptême, la foi par les sacrements, l'usage des sacrements et la reconnaissance du pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Pour nous, c'est clair, net et précis. Mais pour un moderniste, chacun fait l'interprétation qu'il veut. D'accord ? Alors, si l'Église est une émanation vitale de la conscience collective, si l'autorité est un produit vital de l'Église, ben chacun peut avoir sa propre interprétation sur tout. Ça, c'est Concile Vatican II. Pas Concile Vatican II. Vatican II va interpréter selon sa conscience collective toute écriture sainte. Vous voyez ? Vatican II est donc une émanation vitale de la conscience collective. Il n'y a plus de vérité qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun fait sa propre vérité, encore une fois. C'est du charabia tout ça. Ben, c'est vrai que c'est pas facile. Hein? C'est du charabia, mais ça marche, malheureusement. Alors je continue avec le texte de Saint Pédis. Hein? On en est dans mon édition numéro 27. Voilà ce que dit Saint Pédis. La confiance religieuse, tel est donc le principe d'où l'autorité procède, tout comme l'Église, s'il en est ainsi, elle en dépend. Conscience religieuse, ça veut dire quoi? Les sentiments. Chacun interprète l'Église comme il veut. Chacun met dans l'Église ce qu'il veut. Chacun prend dans le catéchisme ce qu'il veut et enlève et jette à la poubelle ce qui ne lui plaît pas dans le catéchisme. D'accord? Alors, l'Église vient-elle à oublier ou méconnaître cette dépendance? Elle tourne en tyrannie. Nous sommes à une époque où le sentiment de la liberté est en plein épanouissement dans l'ordre civil, la conscience publique a créé le régime populaire. Comme si le sentiment de liberté n'avait jamais existé dans l'Église avant le 21e siècle. D'accord? Vous voyez, tout ça, c'est très important à comprendre. On voit très bien. C'est pour ça qu'on dit qu'un moderniste est inconvertissable. Un moderniste est inconvertissable parce que chacun a sa propre interprétation sur tout. Vous voyez, et de dire à un moderniste, ça vous devez croire, et vous devez croire de telle façon, parce que telle est l'interprétation de l'Église pour tel dogme de foi, eh bien c'est impossible. D'accord ? Alors, je continue le texte. Donc, il n'y a pas deux consciences dans l'homme, non plus que deux vies. Si l'autorité ecclésiastique ne veut pas, au plus intime des consciences, provoquer, fomenter un conflit, à elle de se plier aux formes démocratiques. Et c'est énorme, ça. C'est-à-dire que Saint Pédis dit que la conscience religieuse doit se plier aux formes démocratiques. L'Église doit se plier aux formes démocratiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'autorité ne vient plus d'en haut, l'autorité vient d'en bas, vient du nombre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le synode d'octobre 2023. On voit très bien, c'est le système démocratique qui a prévalu. N'oubliez pas que l'esprit démocratique, la démocratie, c'est quoi? C'est l'art d'agiter les peuples en s'en servir. Hein? Bon, la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du nombre. C'est le nombre qui fait la vérité. Comme le nombre change tout le temps, donc la vérité change tout le temps. Donc puisque la vérité change tout le temps, il n'y a plus de vérité. Tout simple, d'accord? Bon, alors, où est-ce que j'en suis? Donc l'Église doit se plier aux formes démocratiques. Les formes démocratiques, ça veut dire quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. Donc liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut, liberté. Chacun interprète comme il veut l'Écriture sainte, liberté. Chacun garde ce qui lui plaît du catéchisme. Et quand une page ne lui plaît pas, on arrache la page et on la jette. D'accord? Ça, c'est la liberté. Et c'est la forme démocratique, c'est le nom qui dirige. Au lieu d'avoir à chercher l'interprétation de Saint Jérôme pour telle partie difficile de l'Écriture sainte, chacun veut une interprétation démocratique, une forme démocratique pour interpréter ce passage difficile de l'Écriture sainte. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Et donc, on demande aux fidèles ce qu'ils en pensent. Et c'est les fidèles qui vont décider ce qu'il faut en penser. D'accord? Monseigneur Lefebvre, vous lisez tout le temps en séminaire, vous avez toute la bibliothèque du séminaire pour vérifier, parce qu'ici, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté de penser, vous n'avez pas de liberté d'interprétation de l'Écriture sainte. Vous devez interpréter de telle manière l'Écriture sainte, que ça vous plaise ou non. Alors, je répète ce texte. Si l'autorité ecclésiastique ne veut pas, le plus intime des consciences, provoquer et fomenter un conflit, à elle de se plier aux formes démocratiques. C'est-à-dire, l'Église doit se plier au nombre. C'est le nombre qui va décider ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. D'accord ? Alors, le nombre change tout le temps. Le nombre n'a aucune importance dans l'Église. Ce n'est pas parce que vous avez la moitié de la population qui pense telle chose que la chose devient bonne. C'est pas parce que l'immense majorité des catholiques en France aujourd'hui ont perdu la foi que ça veut dire qu'il faut pour autant que l'Église change toute sa doctrine. Bien sûr que non. Alors, à elle, donc à l'Église, de se plier aux formes démocratiques. La forme démocratique, on dirigeait l'Église, c'est le nom qui va déterminer ce qu'il faut faire. Le nom pense que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Eucharistie. Très bien, notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Eucharistie. Demain, ce nombre change et une autre vérité apparaît. Il faut suivre la nouvelle vérité. Donc, il n'y a plus de vérité. D'accord ? Car il y a folie à s'imaginer que le sentiment de liberté, au point où on en est, puisse reculer. Enchaîné de force et contraint, terrible serait son explosion. Elle apporterait tout, l'Église en religion, telle est la religion, telles sont en effet les idées des modernistes. Donc, dont c'est par suite le grand souci de chercher une voie de conciliation entre l'autorité de l'Église et la liberté des croyants. C'est encore énorme. Un moderniste, c'est quelqu'un qui cherche une voie de conciliation entre l'autorité de l'Église et la liberté des croyants. Dire, l'Église m'enseigne telle chose, mais je ne suis pas obligé d'y croire. Donc je prends ce que m'a enseigné l'Église, et si ça me plaît, je garde, si ça ne me plaît pas, j'enlève. D'accord ? Et donc il faut concilier l'autorité de l'Église et la liberté des croyants. Je ne peux pas être obligé de croire tel que l'Église me demande de croire. Vous voyez ? Or, on est obligé de croire. On est obligé. Prenez l'exemple de la messe, par exemple. Notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ça souvent, vous n'avez pas le droit d'obliger un catholique d'aller à la messe. Comment j'ai pas le droit d'obliger quelqu'un d'aller à la messe le dimanche ? Bien sûr que j'en ai le droit. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné un des commandements de l'Église pour obliger justement à la sanctification du Seigneur. Et il y a un commandement de Dieu qui rappelle la nécessité de la sanctification du jour du Seigneur. C'est pas forcément que la messe, il n'y a pas de messe. On est tenu de sanctifier le jour du Seigneur parce qu'on est tenu d'adorer Dieu. D'accord ? Donc, il n'y a pas de liberté des croyants. Et donc, vouloir concilier l'autorité de l'Église et la liberté des croyants, c'est détruire l'autorité de l'Église. L'Église m'enseigne telle chose, mais moi, croyant, je prends ce que m'enseigne l'Église, je décortique tout ça, si ça me plaît, je garde, si ça ne me plaît pas, j'enlève. Voilà, et on casse tout comme ça. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la liberté, la liberté de conscience, la liberté religieuse, c'est ça. Non. Il y a déjà des catholiques qui avaient eu ces idées-là autour des années 1850-1860. Et leur mot d'ordre, c'était Église libre dans l'État libre. Une Église libre dans un État libre. Chacun fait ce qu'il veut. Et ça, c'est toute l'école de Lamennais qu'on a déjà étudiée auparavant avec la grande encyclique, les grandes encycliques de Grégoire XVI qu'on a déjà étudiée auparavant. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Donc, voilà le point clé. Le moderniste, c'est quelqu'un qui va chercher à concilier l'autorité de l'Église, liberté des croyants. Je suis libre d'interpréter comme je veux tel texte de l'Écriture sainte. Donc, je reconnais l'Église catholique à une autorité sur le sujet, mais dans la pratique, j'ai la liberté des croyants. Donc, j'interprète comme je veux et pas comme l'Église catholique le souhaite et le désire. Bon, alors, je continue. Encore une fois, j'insiste sur ce point clé, il n'y a pas de conciliation à obtenir entre l'autorité de l'Église et la liberté des croyants. On n'est pas libre d'interpréter comme on veut tel texte de l'Écriture sainte. On n'est pas libre de croire ou de ne pas croire que l'Église catholique est divine. Il faut y croire parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné ce dogme qui, étant Dieu, ne peut ni se tromper ni nous tromper. De même donc, dit saint Pédis, que la foi et la science sont étrangères l'une à l'autre, à raison de la diversité des objets, de même l'Église et l'État, à raison de la diversité des fins, spirituelles pour l'Église, temporelles par l'État, donc l'Église et l'État doivent être séparés. On a déjà expliqué tout ça avec Pachandi, mais pas pareil que Pachandi, excuse-moi, avec Kontakura, avec le syllabus de saint Pédis. Rappelez-vous la proposition, c'est la 55 qui est condamnée par l'Église. L'Église et l'État doivent être séparés, condamnés par l'Église. L'Église et l'État doivent être unis, d'accord ? Donc il n'y a pas, on ne peut pas concilier l'autorité de l'Église et la liberté des croyants. Aujourd'hui, il faudrait avoir l'opinion des croyants tout le temps. C'est ce qui s'est passé au synode d'octobre 2023, où chacun avait la liberté d'interpréter ce qu'il voulait pour tout. Interprétation, libre examen pour tout. C'est pour ça que dans l'Église de modernisme, ils ont qu'un mot à la tête, à la bouche tout le temps, l'Église libre dans l'État libre. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, si je veux concilier l'autorité de l'Église et la liberté des croyants, eh bien, je suis obligé de détruire l'autorité de l'Église, tout simplement. L'Église n'a plus d'autorité parce que chacun est capable et peut interpréter tel texte d'Écriture sainte comme il le veut, ou surtout comme il le veut. Vous voyez ? Ça, c'est extrêmement, extrêmement important à comprendre. Vous avez compris que le grand souci des modernistes, c'est de chercher une voie de conciliation entre l'autorité de l'Église et la liberté des croyants. Mais il est évident qu'à ce moment-là, c'est toute autorité de l'Église qui va sauter. D'accord ? De même donc, la science et la foi et la science sont étrangères. Rappelez-vous, on a déjà expliqué ça. La foi et la science sont deux domaines complètement différents. Donc la science arrive à du concret, la foi arrive à quelque chose de complètement déconnecté du réel, déconnecté du concret. C'est ça part dans les nuées, d'accord ? Eh bien, attention, au contraire, pour un catholique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a l'obligation de croire. On est obligé de croire. On est obligé d'aller à la messe ce dimanche. Quand il y a une messe, on est obligé de sanctifier le jour du Seigneur. Vous n'êtes pas libre de sanctifier ou pas sanctifier le jour du Seigneur. Vous n'êtes pas libre de considérer que dans le mariage, œuvre de chair n'est acceptable, n'est licite que dans le cadre du mariage. Vous n'êtes pas libre de penser ce que vous voulez sur ce sujet-là. Dieu a dit, œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Donc c'est clair, c'est net. Vous n'avez pas de liberté d'interprétation sur le sujet. Quand on explique ces choses-là aux modernistes, on dit à vous, monsieur l'abbé, c'est votre opinion. Je respecte votre opinion. Et moi, j'ai une autre opinion. On ne peut pas avoir d'opinion sur la foi. Vous voyez, quand si chacun pouvait avoir son opinion personnelle sur la foi, il n'y a pas de personnes qui penseraient de la même façon, voyons. On ne peut pas accepter ça. Donc, il ne peut pas y avoir de conciliation entre l'autorité de l'Église et l'autorité de la liberté des croyants, parce que les croyants sont obligés de croire. Si vous ne croyez pas, vous périrez tous. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Donc il y a obligation de croire. On n'est pas libre. Alors, de même, si vous voulez qu'il ne peut pas y avoir de séparation entre la science et la foi, il ne peut pas y avoir une conclusion scientifique qui s'oppose à la foi. S'il y a une conclusion scientifique qui s'oppose à la foi, comme la foi est une lumière divine, c'est la foi qui commande, c'est la foi qui va déterminer que telle proposition, c'est le moyen de la foi catholique, ne peut pas être vraie, elle est donc fausse. Bon. Mais là, les modernistes vont plus loin. Non seulement ils demandent une séparation entre une séparation entre l'autorité de l'Église et la liberté des croyants, ils veulent une séparation entre la science et la foi, mais ils vont plus loin que ça, ils veulent une séparation complète entre l'Église et l'État. L'État, c'est le domaine pratique, l'Église, c'est le domaine spirituel. Donc l'Église n'a plus rien à dire sur l'État, mais l'État peut commander l'Église, c'est ce qui se passe actuellement. Et si je sépare la foi et la science, si je sépare l'Église et l'État, on détruit qu'est-ce qu'on détruit ? On détruit tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est justement l'union qui doit exister entre l'Église et l'État. L'Église et l'État doivent être unis. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est Saint-Pilice lui-même dans le syllabus, sa proposition numéro 55. L'Église et l'État doivent être unis parce que notre Seigneur Jésus-Christ a le droit de dire quelque chose en matière de politique. D'accord ? Donc, le modernisme se reconnaît justement par un amour désordonné pour la séparation de la foi et de la science et pour l'Église et l'État. L'Église et l'État doivent être séparés. Ben non, c'est faux. Que si l'Église et l'État sont séparés, c'est tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il faut, qui disparaît. On n'est pas libre de croire. Il faut croire. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ nous rend donne l'obligation de croire. D'accord ? Et si je ne crois pas, ben, celui qui ne croit pas sera condamné. C'est comme ça. Alors, je continue. Donc, le modernisme veut une séparation, de même qu'il veut une séparation entre la foi et la science, de même il va vouloir une séparation entre l'Église et l'État, chacun étant dans son domaine propre. Donc l'Église est complètement indépendante de l'État, l'État complètement indépendante de l'Église. Or, il faut une union entre les deux. De même qu'il faut qu'un catholique ne doit pas avoir peur des scientifiques, parce que les scientifiques ne peuvent pas arriver à une conclusion qui s'oppose à la foi. Si un scientifique arrive à une conclusion qui s'oppose à la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le scientifique s'est trompé, c'est tout. D'accord? Autrefois, dit Saint-Pélis, donc il continue d'expliquer. Autrefois, dit Saint-Pélis, on a pu subordonner le temporel au spirituel, parce que le modernisme va arriver à la séparation aussi entre le temporel et le spirituel. D'accord? Donc, autrefois, ça c'est le Moyen-Âge, le modernisme dit autrefois, c'est avec le mépris pour le Moyen-Âge, autrefois on a pu subordonner le temporel au spirituel. Il y a une union entre le temporel et le spirituel, parce qu'il doit y avoir une union entre l'Église et l'État. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à dire dans le temporel aussi. Attention! Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un pur esprit qui n'a rien à voir avec nos corps. Attention, on suit notre Seigneur Jésus-Christ pas simplement avec son âme, on suit notre Seigneur Jésus-Christ aussi avec notre corps. Pas oublier ça. Donc il y a une union qui doit exister entre le temporel et le spirituel. Alors on a pu parler, dit Saint-Pédis, des questions mixtes où l'Église apparaissait comme reine, maîtresse. C'est vrai qu'il y a des domaines dans lesquels l'État est maître. J'ai souvent donné comme exemple. Alors, si vous voulez construire un pont sur telle partie de la rivière dans votre ville, l'Église n'a rien à dire sur le lieu du pont. C'est un des ingénieurs de déterminer que la partie du fleuve avec une assise minérale suffisamment forte pour pouvoir construire le pont à cet endroit-là. L'Église n'a rien à dire sur le sujet. D'accord? Par contre, dès qu'on touche à la foi, là, on est dans le domaine de spirituel. Donc, il faut dire qu'il faut subordonner le temporel au spirituel. Donc là, ici, les modernistes disent, ça se faisait avant, auparavant, autrefois, on a pu subordonner le temporel au spirituel. Donc pour eux, l'Église moderne, c'est une Église qui sépare le spirituel du temporel. Il ne faut pas mélanger les deux. Je vous donne le texte. Autrefois, on a pu subordonner le temporel au spirituel. On a parlé de questions mixtes. Il y a des questions qui touchent au temporel et au spirituel, les deux. D'accord ? Où l'Église apparaissait comme reine maîtresse. La raison en est que l'on tenait alors l'Église comme instituée directement de Dieu en tant qu'il est l'auteur de l'ordre surnaturel du citoyen. Et nous croyons, nous catholiques de tradition, toujours que l'Église directement vient de Dieu. D'accord ? Donc, le modernisme demande une séparation de l'Église et de l'État, du catholique et du citoyen. Donc, on sépare complètement l'Église et l'État, comme ça on est tout totalement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Si la séparation demandée entre l'Église et l'État, il est évident que l'Église n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe dans l'État.
Il n'y a plus de morale.
Et bien, voilà, tout est détruit. Regardez par exemple, en tant que catholique, vous ne pouvez pratiquement rien faire pour lutter contre la déclaration comme quoi l'avortement est constitutionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Malheureusement, pas grand-chose, sinon prendre la violence, qui n'est pas forcément agir avec violence, qui n'est pas forcément une solution dans ce cas-là. D'accord? Alors, je continue mon texte là. Donc, autrefois, au Moyen-Âge, on subordonnait le temporel au spirituel, mais aujourd'hui, ça a complètement changé. La raison en est que l'on tenait alors l'Église comme instituée directement de Dieu. Donc, le modernisme dit, Au Moyen-Âge, les gens étaient tellement bêtes qu'ils croyaient l'Église comme subordonnée directement, dûmentement à Dieu. Donc, il fallait une union de l'Église et de l'État. Mais aujourd'hui, on est bien plus intelligent qu'autrefois. Et donc, aujourd'hui, on a plus besoin de subordonner le temporel au spirituel. Et il faut séparer le temporel du spirituel. Alors, il y a des questions mixtes, encore une fois. Je vais donner quelques exemples. La raison est que l'on tenait alors que l'Église comme instituée directement de Dieu en tant qu'il est l'auteur de l'ordre surnaturel du citoyen. L'Église est toujours considérée comme instituée directement par Dieu, qui est l'auteur du monde surnaturel. D'accord? Donc l'Église, étant directement instituée par Dieu, est divine, elle ne peut pas se tromper. C'est impossible en matière de foi et de mœurs. C'est pour ça que Dieu a confié son Église à Saint-Pierre. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les forces du mal ne prévaudront point contre toi. D'accord? L'Église ne peut pas se tromper en matière de foi et de mœurs, c'est absolument impossible. D'où l'infaillibilité de l'Église. L'infaillibilité, non pas de l'Église, l'infaillibilité du pape. Le pape est infaillible dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire, quand en tant que pape, il parle sur la foi et les mœurs avec intention d'obliger toute l'Église. Donc ça parle sur la foi et les mœurs, c'est qu'intention d'obliger toute l'Église, il parle comme pape, comme chef de la chrétienté. D'accord? Donc, on en arrive, dit Saint-Pilis. Voilà le résultat, séparation de l'Église et de l'État, mais aussi séparation du catholique et du citoyen. Donc le citoyen est complètement déconnecté du réel. Le citoyen est complètement déconnecté de l'Église catholique. Vous voyez ? Alors qu'au contraire, pour un catholique, il faut une union entre l'Église et l'État, il faut une union entre la foi et la science, et il faut une union entre l'Église, entre l'État, l'Église et le citoyen. Parce que citoyen, à la fois citoyen de l'État, citoyen de l'Église. Tout catholique, car il est en même temps citoyen, le droit et le devoir, sans se préoccuper de l'autorité de l'Église, sans tenir compte de ses désirs et de ses conseils ni de ses commandements, au mépris même de ses réprimandes, de poursuivre le bien public dans la manière qu'il estime la meilleure. Donc le moderniste dit, il faut une séparation complète entre l'Église et l'État. L'État, l'Église n'a rien à dire à l'État sur sa façon de procéder pour aller au ciel. Je vous ai donné déjà les exemples. Qu'il y a des tas de domaines dans lesquels l'Église doit intervenir, par exemple l'avortement ou des choses comme ça. Oui. C'est pour ça que c'est gravissime que Macron ait osé présenter l'avortement comme partie intégrante de l'Église, d'accord ? Pardon, l'avortement comme partie, excuse-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui, comme partie intégrante de la Constitution française. C'est grave ici parce que si l'avortement devient gravé dans le marbre de la Constitution, ça veut dire que plus personne ne peut l'ôter. Il a fait ça pour être sûr, Macron a fait ça pour être sûr qu'un autre président ne puisse pas venir après et casser ça. Donc l'avortement est dépénalisé complètement en France et un droit complet à l'avortement. Mais aux États-Unis, je souhaite dire bien du plaisir avec Kamala Harris, hein, parce qu'elle elle veut l'avortement possible jusqu'à la fin du 9e mois. Hein. Et quand j'étais à El Paso, je crois que je vous ai déjà donné l'exemple, je ne sais plus si j'ai donné à ce cours, à El Paso, au Texas, les femmes qui voulaient avorter, à la fin du 9e mois, donc un enfant parfaitement vivable, elles prenaient le pont, traversaient le Rio Grande, elles allaient de l'autre côté, c'est la même ville, mais c'est côté, ça s'appelle Ciudad Juarez, côté mexicain, elles se faisaient avorter par une faiseuse d'ange là-bas, et l'espèce de médecin marron, coupait carrément la tête de l'enfant parfaitement bien dans le sein de sa mère. Oh, épouvantable! Couper ta tête carrément à la fin du 9e mois. Parce qu'il y a des gens qui disent, ça c'est le modernisme aussi, les gens disent, mais chacun est libre, tout est basé sur la liberté. Liberté, 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 donc je suis libre d'accepter mon enfant ou non. Donc maintenant on en arrive à dire, c'est ça qui permet la constitutionnalisation de l'avortement. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas un être humain tant qu'il n'est pas né. Donc quand il est dans le sein de sa mère, c'est pas un être humain, donc on peut le couper en morceaux. C'est le faire aspirer par un tubulure d'aspirateur. Une fois qu'il est né, non. Et ça change encore, parce que maintenant vous avez déjà des gens, et Kamala Harris, elle a pas encore dit à ma connaissance, mais pratiquement après ce que je sais, c'est un peu ce qu'elle pense, elle dit les parents sont libres. Non seulement tuer leur bébé pendant toute la période des 9 mois de grossesse, Mais une fois la naissance arrivée, ils sont encore libres d'adopter, d'accepter ou de ne pas accepter l'enfant. On retombe dans le paganisme le plus complet. Les barbares faisaient ça. Les barbares faisaient ça. J'ai vu ça dans les récits. Je vous l'ai déjà expliqué, je crois plus avoir, mais je ne me rappelle plus si je l'ai expliqué là. Je m'excuse de répéter. C'était à l'île de Bornéo. Les récits missionnaires de Bornéo, c'était à Eurissan, certainement des lieux les plus, où l'apostolat des missionnaires était plus difficile. Et ils mangeaient les vieillards, ils mangeaient les morts, ils pratiquaient l'anthropophagie dans certains cas. Et à la naissance d'un enfant, l'enfant était présenté au chef de village qui avait droit de vie et de mort sur l'enfant. Et si l'enfant était refusé par le chef de village, l'enfant était jeté tout vivant au cochon qu'il mangeait. Hein. C'était comme ça. Ça c'était. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il faut savoir que l'avortement, c'est ça. L'avortement, j'ai fait un enfant, comme ils disent, les gens modernes disent, j'ai un enfant, mais j'ai le droit, avant de l'envoyer au cochon, maintenant on fait ça de façon un peu plus élégante, on fait ça dans l'atmosphère aseptisée dans une salle d'hôpital, mais c'est la même chose. Je vois la différence entre envoyer un enfant qui vient de naître, qui a 9 mois, au cochon pour qu'il soit mangé tout vivant par les cochons, ou faire passer l'enfant qui est tout vivant dans la tubulure d'un ordinateur, ou le couper en morceaux dans la tubulure d'un aspirateur, ou le couper en morceaux dans le sein de sa mère. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Et c'est très intéressant de voir qu'ils ont tout fait justement pour cacher la gravité de l'avortement. C'est pour ça qu'ils ont commencé par changer de nom. On ne parle plus d'avortement aujourd'hui. On parle d'IVG, interruption volontaire de grossesse. Et vous voyez, il y a des gens qui se sont convertis avec la grâce du bon Dieu quand ils ont compris ce qu'était l'avortement. Attention. Vous voyez, donc, si je suis moderniste, tout se fait à l'intérieur, tout dépend du sentiment. Vous êtes contre l'avortement parce que ça vous répugne, très bien, soyez contre l'avortement. Mais vous l'êtes contre pour l'avortement. Puisque tout dépend des sentiments, la vérité n'existe pas et chacun fait sa vérité. Si vous voulez estimer que l'avortement est un meurtre, très bien, vous êtes libre de le faire. Mais si vous voulez estimer que l'avortement est un droit constitutionnel comme en France, vous êtes libre de le faire aussi. Vous voyez ? Arrêtez de vous dire qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Hein ? Parce que maintenant, ils préparent autre chose. Qu'est-ce qu'ils préparent ?
L'euthanasie.
On va y aller. L'euthanasie. Alors, il va y avoir l'euthanasie tous les gens qui ont plus de 75 ans. Alors, moi, j'ai 71, il faut que je me dépêche. Bon, l'euthanasie est plus de 75 ans. Alors au début, ils vont quand même, je pense, dire que les gens sont libres. Donc se faire euthanasie ou non. Et puis ils vont finir par faire des lois en disant qu'il y a des gens qui peuvent pas être, qui n'ont pas le droit de vivre. Donc ils doivent se faire euthanasier. Alors on va les aider à leur donner un petit coup de main pour qu'ils se fassent euthanasier pour être sûr de ne pas se rater. Oui. Et c'est ce que disait Attali, qu'un homme de plus de 70 ans coûte trop cher à la société. Donc il a besoin de lui. Le problème, c'est que lui a plus de 70 ans lui-même. Alors il faudrait qu'il commence par pratiquer ça sur lui, ça je veux bien qu'il pratique ça sur lui, c'est-à-dire qu'il commence par nous faire place nette, et à ce moment-là on commencera à pouvoir réfléchir un peu à ces questions-là.
C'est
des élites
qui veulent vivre jusqu'à 120 ans.
Ouais, voilà, vous voyez, c'est gravissime, vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Le modernisme, c'est ce que dit Saint-Pélis, le modernisme on arrive à séparer, puisque tout est... vient de la conscience collective, une émanation vitale, le modernisme est obligé de séparer l'autorité de l'Église de la liberté des croyants. On est libre. Donc l'Église ne peut plus rien imposer. Donc séparation entre la foi et la science, séparation entre l'Église et l'État, séparation entre l'État, l'Église, l'État, l'Église et l'État, mais aussi le catholique et le citoyen. Donc en tant que catholique, vous êtes tenu de suivre certains dogmes, mais en tant que citoyen, vous êtes libre. Vous voyez ? Je répète cette phrase. Séparation de l'Église et de l'État, dit Saint-Pélis. Séparation des catholiques et des citoyens. Donc, tout catholique car il est en même temps citoyen, le droit et le devoir, sans se préoccuper de l'autorité de l'Église, sans tenir compte de ses désirs et de ses conseils, de ses commandements, au mépris même de ses réprimandes, de poursuivre le bien public en la manière qu'il estime la meilleure. Donc le moderniste dit, puisqu'il y a séparation entre l'Église et l'État, puisqu'il y a séparation entre l'Église, les catholiques et les citoyens, en tant que catholique je suis contre l'avortement, mais en tant que citoyen je suis pour. En tant que catholique je suis contre le divorce, mais en tant que citoyen je suis pour. En tant que catholique je suis contre l'homosexualité pratiquée, mais en tant que citoyen je suis libre. Oui, on arrive comme ça. On sépare complètement le corps et l'âme.
Donc il y a séparation, c'est ce que dit Saint Pédis. Autrefois, on a subordonné le temporel au spirituel. D'accord ? Et alors, l'Église apparaissait comme reine, reine et maîtresse. Ça, c'est le Moyen-Âge. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, l'Église était reine et maîtresse. Mais le moderniste va dire, au Moyen-Âge, on subordonnait le temporel au spirituel, c'est-à-dire que l'âme dirigeait le corps était soumis au temporel, le corps c'est le temporel, soumis au spirituel, l'Église était reine et maîtresse, mais aujourd'hui, puisqu'il y a séparation entre l'Église et l'État, il y a séparation entre catholiques et citoyens, l'Église ne peut plus rien imposer, chacun est libre. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc on ne peut plus imposer, par exemple, on ne peut plus dire le mariage c'est l'union d'un homme et d'une femme pour toute la vie. On ne peut plus dire ça. Ah non, parce que les hommes sont libres de considérer qu'un mariage peut être un véritable mariage entre deux hommes ou un mariage légal entre deux femmes. Donc on détruit tout. Ils sont partout ces gens-là.
C'est malin,
hein? Et je viens de m'envoyer un document ce matin, c'est très intéressant. Avant, les gens quand même se cachaient, avaient un minimum de honte de ces choses épouvantables, ces péchés contre nature, donc on les cachait. Maintenant, je ne cache plus du tout. Bon, vous avez... Il y avait des politiciens dans le gouvernement français, pour un ancien Premier ministre, c'était Gabriel Attal, je crois, qui se vend d'être homosexuel, et celle qui veut le présenter maintenant comme première ministre, elle vient d'avouer, mais moi je suis une lesbienne. Castel. Ah bon, il faut accepter tout ça. Castel. Je suis une lesbienne, je viens avec une femme, il faut accepter tout ça. Oh, comme ça. Alors demain, on va avoir un Premier ministre qui va dire, ah, moi je me prends pour un chien, ou je me prends pour un chat, pour un dauphin. Bon, on va où comme ça? Vous vous rendez compte? C'est la. La...
Attention, il faut faire attention à ce que vous dites quand
même. Ben oui, je sais bien.
Parce que même dans la sphère privée,
oui, je sais bien.
Pas porter du jugement.
Je sais bien. On est... ils pensent que chacun est libre. Est-ce que ces gens réalisent que le jour où ils vont mourir, parce qu'ils vont mourir comme tout le monde, ils vont se trouver devant un Dieu qui va les juger devant sa conscience à lui?
Ça va être lui de juger.
Ça, c'est Dieu qui juge et Dieu va juger sur la conscience divine. Il y a une conscience divine. Et Dieu a dit, tu ne tueras pas. Dieu a dit, œuvre de chair ne désirera qu'un mariage seulement. Un mariage, union entre un homme et une femme. Vous voyez ? Enfin, on en arrive à des absurdités absolument sans nom. Et c'est ça qui détruit complètement la civilisation. Il ne reste plus rien. Tout a sauté. Et malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de tout accepter. Le gouvernement nous dit qu'on est obligé de tout accepter parce que chacun est libre. Mais non, la liberté n'est pas le droit de faire ce qu'on veut, ça c'est la licence. La liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien. C'est le pouvoir de choisir le meilleur moyen pour arriver à la fin pour laquelle on est créé. Bon, expliquer ça aujourd'hui, c'est presque impossible, vous voyez. Et le problème, c'est qu'en face de nous, on a des gens qui ont non seulement perdu la foi, mais qui ont aussi perdu le bon sens. Quand on perd la foi, on perd le bon sens, hein. Alors, regardez ce que dit Saint-Pédis. Hein. Un jour, vous allez voir que ces textes, moi je pense qu'un jour ça va arriver, où des textes comme ça vont être interdits par le gouvernement. Le gouvernement va interdire la lecture et la mise sur Internet des textes de Saint-Pédis, parce que Saint-Pédis dit par exemple, que le moderniste a le droit de poursuivre le bien public en la manière qu'il estime la meilleure. Tracer et prescrire aux citoyens une ligne de conduite sous un prétexte quelconque est un habit de la puissance ecclésiastique contre lequel c'est un devoir d'État, un devoir de réagir toutes ses forces. Vous voyez ce que dit Saint-Pédis ? Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, je répète. Tracer et prescrire aux citoyens une ligne de conduite morale.
C'est la censure.
Par exemple, dire tu ne tueras pas sous un prétexte quelconque. De dire à une personne, vous ne pouvez pas divorcer et aller prendre la femme de votre voisin, parce que vous êtes marié pour la vie. Saint-Pédis dit, pour un moderniste, tracer, prescrire aux citoyens une ligne de conduite sous un prétexte quelconque, mais un prétexte moral, est un abus de la puissance ecclésiastique contre lequel c'est un devoir de réagir toutes ses forces. Donc un jour, le gouvernement va utiliser. Si le gouvernement est logique, le gouvernement va dire, vous n'avez pas le droit de dire qu'il y a 10 commandements. Dieu n'a pas le droit de dire tu ne tueras pas. Dieu n'a pas le droit de dire tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Dieu n'a pas le droit de dire tu ne mentiras pas. Parce que vous comprenez, si on accepte ça en France, même dans la sphère privée, Même dans le domaine familial, si vous enseignez à vos enfants, tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas le droit de mentir, parce que Dieu l'a interdit, vous allez contre la liberté de l'enfant. Donc, monsieur, je vous retire votre enfant, parce que vous enseignez à votre enfant, et quand la loi des 10 commandements de Dieu, Dieu n'a pas le droit d'enseigner quoi que ce soit, parce que l'homme est libre. Et c'est là où il faut toujours répondre la même chose aux gens. Attention, vous allez mourir. Moi aussi d'ailleurs, tout le monde va mourir. Et le jour où vous allez mourir, Dieu va vous juger selon ses commandements, pas les nôtres. Pas les commandements de Macron, il va juger selon les commandements de Dieu. Vous voyez, je répète cette phrase ahurissante, c'est pour montrer jusqu'où va le modernisme. Parce que les gens vont dire, modernisme, c'est simplement un truc philosophique, c'est la liberté de conscience, mais c'est, bon, c'est un peu l'agnosticisme, la mentir, mais c'est pas si méchant que ça. Regardez ce que dit Saint Pie X, je répète cette phrase. 1907. Tracer, prescrire aux citoyens une ligne de conduite sous un prétexte quelconque, quelle que soit la raison, c'est un abus de la puissance ecclésiastique. Contre lesquels c'est un devoir de réagir toutes ses forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un moderniste, l'État a le devoir de réagir contre tout abus de la puissance ecclésiastique. Donc, vous refusez l'absolution à un voleur qui ne veut pas rendre le produit de son vol, eh bien c'est un abus de la puissance ecclésiastique. C'est ce qu'on a par la loi. Alors là, c'est intéressant parce que... Oui. Oui, c'est exactement ça, c'est l'apologie de la laïcité, mais c'est très intéressant de voir que les athées d'aujourd'hui, si vous voulez, les républicains d'aujourd'hui, ils vont par exemple vous dire l'homme est libre. L'homme est libre. Dites, très bien, l'homme est libre. Donc monsieur, je vous viens de vous voler votre portefeuille dans votre poche de veston. Je suis libre de voler le portefeuille dans la poche de votre veston et je suis libre de garder et refuser de le rendre. Puisqu'il n'y a pas de loi morale. C'est la morale qui dit tu voleras pas. Donc vous êtes libre. Alors là non. Là c'est non, comme si c'est mon argent que vous avez volé, je vais vous obliger avec les juges à me rendre l'argent que vous m'avez volé. Et par contre, les gens vont dire, vous êtes pas libre de cueillir une fleur dans un parc national, ça c'est un péché grave, grave puissance 10. Par contre, vous êtes libre de tuer votre enfant, de couper un morceau dans le sein de sa mère. Ça oui. On arrive à n'importe quoi. Vous voyez? Alors, vous allez voir, Saint Pie X insiste là-dessus, c'est incroyable. Quoi. Moi j'avais oublié ces passages, j'avais lu déjà. Pachani depuis longtemps, il y a longtemps, mais j'avais oublié tous ces passages. Regardez ce qu'il dit. Il ne suffit pas, numéro 30, à l'écoute moderniste, que l'État soit séparé de l'Église. De même que la foi doit se subordonner à la science, quant aux éléments phénoménaux, aussi faut-il que dans les affaires temporelles, l'Église s'ajoutisse à l'État. Non seulement il faut séparation entre l'Église et l'État, mais c'est l'État qui va diriger l'Église. C'est l'État qui va dire à l'Église qu'elle doit faire. Donc, on va en arriver, par exemple, à l'État, c'est ce qui se passe actuellement, on y arrive tout droit. L'État va avoir le droit de dire à une école catholique traditionnelle, vous n'avez pas le droit d'enseigner à une jeune fille qu'elle doit rester vierge jusqu'au mariage. Parce que ça va contre sa liberté. Vous n'avez pas le droit d'enseigner à une jeune fille que le mariage est indissoluble. Vous n'avez pas le droit d'enseigner à un jeune homme dans une école catholique que l'avortement est un crime, que l'homosexualité est un crime contre nature, qui crie vengeance contre le ciel. Si vous enseignez ça, vous allez contre un droit constitutionnel de la personne, monsieur, je ferme votre école. Et c'est ce qui se passe. Et ça, on y arrive tout droit. Hein. On y arrive tout droit, qu'est-ce qui reste? Il ne restera plus que les catacombes. Et on y va tout droit. Il ne restera plus que les catacombes. Il y a eu un texte assez extraordinaire de le Monseigneur Vigano, il vient de publier, que je vous conseille, sur le sujet que j'ai écouté. Je l'ai fait écouter, maman l'a écouté dans la voiture, où Vigano justement explique bien ça. Il faut revenir littéralement. Ils vont nous interdire de célébrer la messe, parce qu'à Rome, ils veulent interdire la messe traditionnelle dans le monde entier. Très bien, on ira célébrer la messe dans les bois, on ira célébrer la messe dans les caves, on ira célébrer la messe comme c'est célébré la messe pendant le temps des Vendéens, le temps des Vendéens, le temps des Christéros ou le temps des persécutions. Vous voyez, on y va tout droit. Alors, c'est intéressant, là, on va y revenir. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Mais Saint-Pédis termine cette partie en disant « Ces principes dont toutes ces doctrines dérivent ont été solennellement condamnés par le pape Pie VI, notre prédécesseur, dans sa constitution Auctorem Fidei. » Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Auctorem Fidei, c'est une encyclique de 1794. Donc, ça date du temps de la Révolution. Donc, Pie VI contre le concile de Pistoia, et qui va condamner justement les principes de la Révolution française. Donc Pie VI va solennellement condamner le principe de la liberté, l'égalité, de la fraternité. D'accord ?
Lui sera des francs-maçons.
Voilà. Et je vais j'aurai pas le temps de tout expliquer maintenant, donc je vais pas vous expliquer complètement tout le texte de la bulle Auctorem Fidei, parce qu'il y a une grande partie qui est un peu hors sujet, par rapport au sujet qui est le nôtre actuellement, c'est-à-dire la condamnation du modernisme. Cependant, je vais vous citer certaines des propositions. Pour ceux qui veulent le texte, vous pouvez l'avoir sur Internet, ça s'appelle Auctorem. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Auctorem Fidei, donc Auctorem Fidei, Pie VI, c'est un pape, hein. Pie VI, 1794. Bon, ce seront les 15 premières propositions. Je ne sais plus combien il y a de propositions dans l'ensemble de l'encyclique, mais ce sont les 15 premières propositions qui sont pleines dans notre sujet. Et donc, Pie VI va condamner, en fait, le protestantisme qui commençait à arriver, à pointer le bout de son nez dans toutes ces idées-là. Et vous allez voir que les condamnations de Pie VI correspondent tout à fait aux condamnations de Saint Pie. Bon. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas, encore une fois, étudier complètement Auctorem Fidei, parce que là, sinon, on ne s'en sort pas. Et moi, je vais me retrouver à expliquer Pachani pendant 10 ans, hein, sûrement d'ici là. Bon. Voyons, c'est surtout les 15 premières propositions. Donc, la proposition numéro 1, donc, à expliquer l'obscurcissement des vérités de l'Église. Bon. La proposition première dit ceci: dans ces derniers siècles, on est en 1794, donc c'est la révolution qui vient d'arriver. Dans ces derniers siècles, a été répandu un obscurcissement général sur des vérités de grande importance relatives à la religion et qui sont la base de la foi et de la doctrine morale de Jésus-Christ. Bon. Alors attention, donc cet obscurcissement des vérités de l'Église va entraîner, si vous voulez, va préparer le modernisme. N'oubliez pas que le modernisme est condamné en 1907, mais que les principes du modernisme sont déjà dans la Révolution française de 1789, d'accord ? Donc, le pape Pie VI va déclarer hérétique toutes ces règles, si vous voulez, ces commandements qui obscurcissent les vérités générales de l'Église. Bon, par exemple, la proposition va condamner le pouvoir attribué à la communauté de l'Église pour être communiqué par elle au pasteur. Donc le pape Pie VI, dans Auctorem Fidei, 1794, déclare comme hérétique la façon d'attribuer à la communauté de l'Église les vérités qui vont être communiquées par la masse au pasteur. C'est exactement ce qui s'est fait au synode d'octobre de 2023. On demande à la base, la communauté de l'Église, c'est la base, d'examiner les vérités de la foi catholique, de choisir ce qu'ils veulent, de garder ce qu'ils veulent, et ensuite c'est communiqué au pasteur. C'est exactement ce qui a été fait. Et ça, c'est condamné par le pape Pie VI comme une proposition absolument hérétique. Donc, voilà le texte. La proposition qui établit que le pouvoir a été donné par Dieu à l'Église pour qu'il soit communiqué aux pasteurs qui sont ses ministres pour le salut des âmes est une proposition hérétique si on entend en ce sens que le pouvoir du ministère et du gouvernement ecclésiastique découle de la communauté des fidèles sur les pasteurs. Proposition hérétique. Donc, le pape condamne ceux qui prétendent que le pouvoir du ministère et du gouvernement ecclésiastique, c'est le pouvoir des évêques et du pape évidemment, le pouvoir de l'Église enseignante, c'est le pape et les évêques, ce pouvoir découle de la communauté des fidèles sur les pasteurs. C'est déjà condamné par l'Église en 1794. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 1794, il y avait déjà des petits malins qui prétendaient que le pouvoir dans l'Église devait venir de la base. On a versé déjà, on voulait déjà verser la pyramide. C'est la base qui va décider ce qu'ils font enseigner. Donc, les fidèles vont décortiquer le catéchisme, garder ce qui leur plaît, inventer d'autres dogmes, d'autres choses, supprimer ce qui ne leur plaît pas, et ils vont ensuite imposer ça aux pasteurs, c'est-à-dire aux prêtres, aux évêques. Pourquoi ? Parce que la vérité vient, c'est ce que dit Saint-Pédis, on l'a déjà vu, l'Église doit se plier aux formes démocratiques. La forme démocratique, c'est quoi ? La forme démocratique, c'est le pouvoir du nombre. C'est ça, la démocratie, c'est quoi ? Pas le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir du nombre. C'est le nombre qui décide. Il n'y a plus de vérité, c'est le nombre qui décide si une vérité est une vérité ou non.
À l'époque de la Révolution, il y avait des prêtres qui devaient faire allégeance à la
Bien sûr. Mais vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dès 1794, le pape est déjà obligé de condamner ceux qui prétendent que c'est le nombre qui fait la vérité et que la base va décider et va dire aux pasteurs ce qu'il faut qu'ils enseignent. Ce qu'on retrouve déjà actuellement avec l'Église de Vatican II. Donc en 1794, ça explique pourquoi Saint Pie X en 1907 va déjà condamner des choses qui apparaissent à l'époque comme non existantes. Donc toutes ces idées révolutionnaires, ces idées complètement farfelues du pouvoir du nombre, de la base qui va décider ce qu'il faut enseigner, sont déjà condamnés par l'Église juste après la Révolution. C'est gravissime parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est ce qui nous pend au nez, où l'État va dire vous n'avez plus le droit d'enseigner à vos enfants qu'il y a 10 commandements. Parce que si vous dites hein, mais ils s'en fichent, ils s'en fichent. Hein, quand une famille, rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné la dernière fois. Si une petite de 10 ans décide parce qu'elle était contaminée par des mauvais camarades à l'école qu'elle va devenir un garçon, que les parents s'y opposent, les parents n'ont même plus le droit de dire à l'État c'est un problème de famille, vous n'allez pas me mettre votre nez là-dedans, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis chef de famille. Qu'est-ce que va dire l'État ? L'État va dire votre fille est libre de devenir un garçon si elle le veut.
Et on vous la retire.
Et si vous n'êtes pas d'accord et vous ne voulez pas l'habiller comme un garçon et lui donner un prénom de garçon, donner le droit de devenir un garçon avec des procédés chimiques épouvantables qui vont changer complètement son système hormonal et faire des choses épouvantables en matière chirurgicale qui sont irréversibles, elle est libre et vous n'avez pas le droit d'aller contre ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, on tire l'enfant, on met dans une famille d'accord musulmane ou une famille d'accord pas musulmane, parce que même les musulmans ils n'accepteront pas ça, hein. Et c'est comme ça. Oui, et c'est condamné par l'Église, et c'est ce qui nous pend au nez. C'est pour ça qu'il faut bien écouter ce texte de Mgr Vigano, qui est très intéressant, en disant, on va droit à un retour aux catacombes. Retour aux catacombes. Il va falloir, si on peut plus élever nos enfants dans la foi catholique parce que ça gêne Monsieur Macron, qu'est-ce qu'on va faire? On va abandonner le baptême des enfants? On va plus faire quoi que ce soit avec nos enfants? Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on peut, un père de famille n'a même plus le droit de donner une baffe à son fils. Une gifle à son fils, parce que son fils a fait une ânerie ou a fait un gros péché de blasphème ou je ne sais pas trop quoi dans la maison, ou a cassé quelque chose. Vous n'avez plus le droit de toucher votre enfant. Un professeur dans une école ne peut plus rien faire. S'il donne une baffe à un enfant, il perd son boulot.
Ah oui, il y a longtemps.
Mais oui, ça fait longtemps. Moi, j'ai déjà donné cet exemple d'un professeur d'anglais que je connaissais bien, c'était un de mes fidèles quand j'étais dans la France. Il était professeur dans une école publique, et il nous disait, il y avait un grand escalier qui montait aux étages, il y avait différentes salles de classe dans les étages, il nous disait, on était obligé de raser les murs parce que les élèves au dernier étage nous crachaient sur les professeurs. On pouvait rien faire. Si on donnait une baffe à un enfant qui venait cracher sur un professeur, c'était le professeur qui prenait. Mais tout est comme ça. Alors, je vous cite la dernière proposition, on y reviendra parce que là je vais un petit peu vite. Donc je répète cette proposition parce qu'à mon avis c'est quand même extrêmement, extrêmement important. La proposition qui établit que le pouvoir a été donné par Dieu à l'Église pour qu'il soit communiqué aux pasteurs, qui sont ses ministres pour le salut des âmes, est une proposition hérétique si l'on entend en ce sens que le pouvoir du ministère et du gouvernement ecclésiastique découle de la communauté des fidèles sur les pasteurs. Donc l'Église condamne ceux qui disent que l'autorité doit venir de la base. C'est ça la condamnation Pie VI, 1794.
Et c'est exactement l'Église synodale.
Et c'est l'Église synodale. Et c'est pour ça que il y a même des gens qui actuellement commencent à faire circuler le bruit que Bergoglio à Rome veut changer le nom de l'Église d'Église catholique à Église synodale.
Église conciliaire et Église synodale.
Mais ils appellent déjà ça l'Église conciliaire d'ailleurs. Mais ils veulent pas appeler ça l'Église synodale parce que synode dans le sens c'est l'autorité du nombre. C'est le nombre qui décide ce qui est vrai, c'est le nombre qui décide ce qui est acceptable, c'est le nombre qui va décider sur quels sont les sacrements qu'on garde, quels sont les sacrements qu'on peut accepter, quels sont les sacrements qu'il faut modifier, quel est le texte du credo qu'on peut accepter, quels sont les textes, les vérités qu'on peut accepter, qu'on doit perdre, vous voyez. Je reviendrai là-dessus parce que là j'étais un peu vite, on va revenir là-dessus. Il faut que je retravaille un peu moi-même cette partie-là parce que je me suis aperçu qu'il fallait que j'explique au Chloral Fidei un peu au dernier moment en reprenant mon texte. On est combien aujourd'hui? 7 août, voilà, donc sur un sera là. Donc, vous voyez, c'est quand même absolument ahurissant. Hein. Bon, alors n'oubliez pas que mercredi prochain, donc je m'excuse pas court, donc le prochain cours, ben c'est dans 21 août. Voilà, je vous par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pilis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais le faire si vous voulez. En fait, c'est simplement ce bouton. Un seul bouton, c'est tout. Vous ne touchez plus.